Radio Kapi. Mesdames, Messieurs, voici les principales articulations de votre journal. Que faire pour sauver l'année scolaire 2021-2022? Plusieurs voix s'élèvent et demandent aux enseignants de reprendre les chemins de l'école tout en poursuivant les négociations avec le gouvernement. L'évêque du diocèse catholique de Mahagi, Monseigneur Sosten Ayikuli, demande au gouvernement de prendre des dispositions utiles dans le cadre de l'état de siège, notamment le renforcement des troupes et la dotation de l'armée en équipement nécessaire pour une paix réelle et durable. Éric Kajemba, coordinateur de l'Observatoire Gouvernance et Paix, une ONG spécialisée dans les questions de bonne gouvernance dans les secteurs miniers, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il propose une série de recommandations pour que les ressources naturelles de la RDC bénéficient enfin aux populations locales. Il est l'invité de votre journal. Bonjour à toutes et à tous. Le président national de la coordination des écoles conventionnées invite les enseignants des écoles conventionnées à reprendre les activités scolaires. C'est là en attendant les conclusions des travaux entre les bancs syndicales et le gouvernement. Le révérend Guy Kabangu l'a déclaré à l'issue de sa rencontre hier lundi avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, affirme notre consoeur actualité.cd. Que faire cependant pour sauver cette année scolaire? Maître Jean-Claude Kalala, conseiller au collège juridique de l'EPST, appelle également les enseignants à reprendre la craie tout en poursuivant les négociations avec le gouvernement. Il intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kéline Kouté. On l'écoute.
Pour sauver l'année scolaire 2021-2022, je pense que la solution elle est simple. La partie gouvernement a fait preuve de bonne foi en ajoutant en gage de bonne foi une somme sur le salaire des enseignants et que les discussions restent ouvertes à travers les travaux de la commission paritaire reconnue par tous en termes de leur existence. Pour autant que ces discussions ne sont pas encore totalement closes, continuons à discuter. C'est aussi cela un état de droit. On doit continuer à discuter parce que l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant demeure la leitmotiv de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et demeure une préoccupation primordiale pour les ministres de l'EPST. Les discussions continuent à être ouvertes. Nous appelons donc tous les enseignants à rejoindre leur salle de classe, à continuer à former et enseigner. Et de ces discussions qui demeurent ouvertes, nous osons croire que des conclusions satisfaisantes pour chacune des parties pourront être trouvées.
Pour sa part, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques SINECAT et aussi porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, estime que le ministre de l'EPST doit commencer par réhabiliter les enseignants qui ont été désactivés de la liste des pays. Pour sauver l'année scolaire 2021-2022, il appelle à la poursuite des négociations et l'implication du premier ministre et du chef de l'État. Il intervenait aussi dans l'émission Dialogue entre Congolais hier, animée par Kelly. On l'écoute.
Pour sauver l'année scolaire 2021-2022, il est important que les premiers ministres, chefs du gouvernement et même le président de la République prennent à bras le corps cette question. Parce que si ce n'est pas pris en toute responsabilité, eh bien les écoles risquent de ne jamais redémarrer. Mais vous savez que dans les syndicats, il y a toujours le dialogue, il y a la négociation. On négociera toujours. Mais ce qui est plus important, c'est que nous devrons comprendre que les enseignants qui ont été désactivés, il faut absolument qu'on les réactive. D'abord, ce sont des pères de famille. On ne peut pas aller dans une négociation si on est sérieux avec des enseignants qu'on a désactivés abusivement. Donc nous pensons qu'il faut que le ministre fasse amende honorable. Eh bien, ça ne lui coûte rien. Hein. Nous avons l'impression que quand on devient homme d'État, on a l'impression qu'on ne peut plus respecter les autres. Non, il doit respecter les enseignants et il doit suspendre sa mesure pour que les enseignants du collège Boboto et du lycée Bossangane et d'ailleurs qui sont menacés ne soient pas victimes de cette mesure liberticide.
Notons que ces extraits ont été proposés par Alain Hurong. Dans la province de La Tchoupo, 62 enfants hébergés à la maison Saint-Laurent ont été déposés dimanche dans la soirée à la résidence du gouverneur des provinces par intérim par les prêtres du Sacré-Cœur. Ceci pour marquer leur désapprobation face à la tentative d'espoliation de leur concession par un groupe de personnes supposées appartenir à un réseau mafieux au su et au vu de toutes les autorités. Parmi les 62 enfants, 4 sont blessés et internés dans un centre de santé de la place pour des soins. Explication Jacques Mokonkole.
Ces enfants ont été blessés lors de l'intervention de la police en vue de rétablir l'ordre public au site convoité par un particulier, mais dont le prêtre affirme détenir tous les documents cadastraux. Cet incident est survenu lorsque les jeunes pensionnaires de la maison Saint-Laurent ont opposé une résistance farouche au moment où un agent des cadastres, entouré de ses proches, tentait de procéder le dimanche aux travaux de mesurage et de bornage, et cela à l'insu des prêtres. C'est pour protester contre l'inaction de l'État qui n'arrive pas à prendre des actions conséquentes pour protéger leur patrimoine qui sert des œuvres de charité qu'ils ont remis ces enfants aux représentants de l'État, déclare un prêtre de Sacré-Cœur de Jésus. Cependant, Maurice Abibou Sakapela, gouverneur des provinces intérimaires, se dit choqué de cet acte posé par ces religieux.
C'est inadmissible et c'est non chrétien. Nous avons envoyé la police pour stopper les travaux. Malheureusement, il y a une inadvertance de l'officier qui conduisait l'opération qui a pris position par rapport au dossier de manière maladroite. Ce n'est pas une raison pour le prêtre de mettre les enfants dans la rue.
Le gouverneur des provinces compte organiser urgemment une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux parties prenantes et aux services techniques pour s'attuer sur cette affaire. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons santé. Au Nord Kivu, le comité d'appui à la riposte contre Ebola s'est dit préoccupé par la résurgence de l'épidémie dans la ville de Beni le week-end passé. Pour éviter la propagation de la maladie, son coordonnateur invite la population à l'engagement communautaire comme par le passé lors des dernières épidémies. Maître Omar Kavota explique au micro d'André Kitenge.
Nous voudrions ici exprimer encore une fois notre vœu de voir la population s'engager pour appuyer les équipes de la riposte, surtout pour ceinturer les cas qui a été identifié. Nous avons appris que au moins 100 contacts ont été identifiés et ils seraient à court d'être pris à charge de manière à ce que l'on ne puisse pas encore assister à la propagation de l'épidémie. Nous avons l'expérience dans la lutte contre cette épidémie et nous savons toujours que grâce à l'engagement communautaire, on ne peut plus assister à la propagation de l'épidémie. Nous avons aussi l'expérience dans la lutte contre COVID-19 parce que les mesures barrières sont presque les mêmes et nous espérons que s'il y a des contacts formellement identifiés, ils devront faire en sorte qu'ils soient pris à charge et qu'on ne puisse plus assister à cette longue épidémie à laquelle on a assisté par le passé.
Résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à mobiliser les moyens pour stopper au plus vite la propagation de cette 13e épidémie d'Ebola. Edgar Matesso, son vice-président, invite également la population à ne pas céder aux rumeurs d'intoxication en vue d'éviter une catastrophe sanitaire comme ce qui a été vécu dans la zone lors de la 10e épidémie. Edgar Matesso s'est confié à Grace Amzati.
Nous avons encore en mémoire les affres de la 10e épidémie. Nous avons perdu plus de 2700 personnes au cours de cette épidémie. Nous avons déjà une expertise qui est à la hauteur de la situation. Si nous capitalisons les connaissances, les acquis, il y a à espérer. Du côté du gouvernement, nous pensons qu'il est urgent de mobiliser les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Mais aussi, nous aurions souhaité que le gouvernement recourt à l'expertise locale parce que parfois, quand on amène des gens qui ne maîtrisent pas les us et coutumes de la région, ça crée des résistances. Nous voudrions en appeler à la communauté locale d'abandonner cette stratégie de résister contre les équipes qui viennent nous aider, que la communauté se méfie des intox, des mauvaises informations qui sont distillées parfois par des politiciens, des leaders, ou même par des personnes mal intentionnées qui parfois déroutent la population.
L'état de siège qui avait suscité l'espoir pour le rétablissement de la paix en Ituri commence à céder la place au désespoir, à la révolte et à l'autodéfense populaire. C'est l'évêque du diocèse catholique de Mahagi, Monseigneur Sosten Aikuli, qui l'a dit dans un point de presse tenu le week-end à Mahagi Centre. Selon les constats faits par ces prélats catholiques, les violences des groupes armés se sont intensifiées, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mahagi, ce qui pousse certains jeunes à se prendre en charge pour faire échec aux miliciens. Ils demandent au gouvernement de prendre des dispositions utiles, notamment le renforcement des troupes et la dotation de l'armée en équipement nécessaire. Un extrait de propos de Mgr Sosten Aikuli, recueilli par Isaac Remoyope.
L'état de siège qui était décrété depuis plus de 5 mois avait comme objectif principal d'éradiquer ces forces négatives qui endeuillent impunément la population paisible, sans moyens de défense, non habituée à la barbarie. Voilà pourquoi l'avènement de cet état de siège avait suscité tant d'espoir. Le nombre de morts enregistrés en cette période et l'insécurité de plus en plus grandissante cèdent la place, non sans raison, au désespoir, à la révolte, au désaveu qui risque d'engendrer la dangereuse tentation de l'autodéfense. Dans ce cas, il devient même difficile de compter sur la collaboration de la population. Au gouvernement, je recommande d'affecter un effectif conséquent des éléments engagés sur le terrain, les doter des moyens logistiques conséquents et de leur donner des soldes décents et justes pour leur permettre d'anticiper au lieu de posticiper, de traquer au lieu de réagir. Si ces conditions ne sont pas réunies, je pense que l'état de siège accouchera d'une souris.
Contactées, les autorités provinciales ont refusé de s'exprimer à cet effet. En bref, plusieurs personnes tuées, d'autres portées disparues et des maisons incendiées, c'est le bilan encore provisoire des attaques attribuées aux ADEF de samedi à hier lundi en Bingi, Mapasana, Mbangazi, Matekelambi, Mabuo et Matadi, des villages du secteur de Benimbao dans le territoire de Beni. Selon la société civile qui livre l'information, pour l'instant, la population de la région a des difficultés à se déplacer vers les zones sécurisées, car ne sachant pas où se cacherait l'ennemi. Contacté par Radio Okapi, le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, reconnaît les affrontements entre les FARDC et ADEF dans la région, mais ne livre aucun bilan. La chef de la MONUSCO a évoqué le 5 octobre dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU la stratégie de retrait progressif et responsable de la MONUSCO en RDC. À la suite de cette déclaration, Radio Okapi propose une série de réflexions concernant cette stratégie de retrait. Aujourd'hui, Jean-Pierre Elali Ikoko s'intéresse à l'historique de ce processus de transition ayant essentiellement comme fondation ou texte fondateur la résolution 2556 du 18 décembre 2020 du Conseil de sécurité.
Le 18 décembre 2020, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2556 prorogeant une nouvelle fois d'une année jusqu'au 20 décembre 2021 le mandat de la MONUSCO. Pour ce nouveau mandat, les priorités stratégiques sont restées la protection des civils et l'appui à la stabilisation, au renforcement des institutions de l'État et aux principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Dans cette même résolution, il a été approuvé la stratégie commune sur le retrait progressif et échelonné de la MONUSCO et demandé en même temps l'élaboration d'un plan de transition. Ce plan devrait comprendre un ensemble de critères détaillés et indicateurs précis, mesurables et réalistes, assortis d'un calendrier indicatif. Il devrait définir également le rôle et les responsabilités de chaque partie, ainsi que fournir une évaluation et une stratégie d'atténuation des risques pour les retraits progressifs de la MONUSCO, tout en définissant les modalités pratiques du transfert des tâches au gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'équipe pays des Nations Unies et aussi aux parties prenantes. Dans sa déclaration le 5 octobre devant le Conseil de sécurité, la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a rappelé les défis qui restent à relever dans l'Est, dont le plus important concerne la sécurité et la protection des civils, mais aussi les défis humanitaires.
Pétition à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, aucun membre du bureau n'a survécu ce lundi. Le vice-président et les rapporteurs qui ont refusé de démissionner avant le vote se sont vus écartés simplement par leurs collègues députés. François Kadima a assisté à cette plénière.
Tous les 5 membres du bureau ont été visés par les pétitions initiées par leurs collègues députés. Accusés entre autres pour la gestion calamiteuse des finances, les propos malveillants envers les députés provinciaux et le détournement des émoluments, le président de cet organe délibérant a simplement décidé de démissionner. Patrice Emese Sanga l'a fait au cours de la plénière après avoir présenté ses moyens de défense. Le rapporteur adjoint et les casters avaient résolu de rendre les tabliers avant le jour du vote de ces pétitions. Le vice-président et les rapporteurs avaient décidé de présenter leurs moyens de défense au cours de la séance en rejetant le grief à leur charge. Si Mathieu Ntolo a été accusé d'avoir notamment encouragé le président, son titulaire, à utiliser les émoluments de certains députés, Joseph Kalamba a été visé pour gestion inefficace du grief et de rapports parlementaires. Après vote, 25 députés ont décidé du départ du vice-président contre 5. Le rapporteur a été écarté par 27 voix. Clôturant la plénière, le président du bureau d'âge a annoncé la publication prochaine du calendrier pour l'organisation des élections de nouveaux membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, la religieuse colombienne sœur Gloria Cecilia Narvaez a été libérée samedi 9 octobre après 4 années et 8 mois de captivité. Mais les djihadistes détiennent encore plusieurs otages, dont au moins une dizaine de Maliens. Sœur Gloria Narvaez était détenue par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Agali. Sa libération a été obtenue au terme des négociations menées par les autorités maliennes des transitions et par l'association chrétienne Sant'Egidio à la demande du Vatican.
L'invité.
C'est Eric Kajemba, coordonnateur de l'Observatoire Gouvernance EP, une ONG spécialisée dans les questions de bonne gouvernance dans les secteurs miniers. Il déplore le fait que ces secteurs congolais soient gangrénés par la fraude et que les agendas politiques priment sur les intérêts économiques. Il propose une série de recommandations pour que les ressources naturelles bénéficient enfin aux populations locales. Il intervient dans le cadre de la série des reportages que Radio Kapi a commencé depuis la semaine passée sur la problématique des contrats miniers. Eric Kajemba s'entretient avec Cynthia Bachi.
Eric Kajemba, bonjour.
Bonjour, Anta.
Le projet minier entre la RDC et un groupe d'entreprises chinoises, Sicomine, est fortement décrié aujourd'hui. Il est jugé déséquilibré et même le président de la République souhaite revisiter cette convention. Quel est votre avis?
Bon, mon avis est que il faut pas toujours agir après coup, c'est-à-dire que, et je pense que c'est lié à un moment de choses, c'est notamment le fait que les négociations ne se font pas dans les règles d'art, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de vrais techniciens pour négocier, ou encore de deux, on négocie ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas les actifs des gisements et qu'on a un contrat dont on ne connaît pas la valeur des gisements, je crois que tout est faussé d'avance. Tout le monde dit, scandale géologique, et tout, c'est combien que ça vaut. C'est comme ça que nous avons des contrats où on l'achète à vil prix, et sans mettre un seul investissement, même pas une bêche, 6 mois, 8 mois après, on vend 50 fois, 100 fois plus.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut mettre plus en avant les technocrates lors de la négociation des contrats?
Absolument. Il faut des cabinets spécialisés, aguerris, qui justement peuvent comprendre tout le méandre d'un contrat minier, mais aussi, je donne un exemple, quand on signe un contrat, ça se passe comment? C'est souvent dans un bureau à Kinshasa, on n'est pas descendu sur le terrain, on n'a pas vu les responsables locaux. On signe un contrat et ça vous tombe dessus en province, là où il y a l'exploitation. Ça devrait être l'inverse, on devrait partir de là où on exploite pour justement maintenant arriver à aller à Kinshasa et signer.
Une fois que ce déficit de technicité sera comblé, vous pensez qu'on pourra enfin avoir des contrats miniers équitables?
Il y a ça, mais il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'accès aux services financiers. C'est-à-dire le fait que nous, on ne peut pas lever de fonds, mais tous ces Chinois, bon, ils vont dans des banques chinoises, ils lèvent de fonds, ils viennent et par moment, on négocie en position de faiblesse. Et il y a plusieurs facteurs, notamment, qu'est-ce que vous voulez quand vous négociez, que dans l'administration, vous avez des agents non payés. Voilà, il y a un nombre de facteurs qui sont liés au niveau de la gouvernance globale qui pose problème.
Cet ensemble de facteurs-là explique aujourd'hui le fait que nous avons quand même un instrument juridique qui a été révisé en 2018, bien apprécié par la société civile, mais les intérêts du pays peinent toujours à triompher.
Oui, je donne un exemple. On a eu cette répartition que nous avons jugée assez évolutive.
Répartition dans le code minier.
Dans le code minier de la redevance, où carrément maintenant, pour les collectivités locales, on passe de 15%. Bon, c'est 15%, mais du moment où il y a la fraude, 15% de rien, c'est rien. Je donne l'exemple pour l'or. Si on parle de l'artisanat minier ici, on a 98% de fraude. Même si l'or n'est pas concerné par la redevance, mais si c'était concerné, prenons les taxes ou les recettes. Quand c'est 2% qui sont seulement visibles, qu'est-ce que vous voulez donc? On a parlé ici de fonds pour les générations futures. Dans l'idée, c'est bon. Mais il y a, je ne sais pas s'il y a un manuel de procédure qui organise ces fonds-là. Il ne suffit pas d'avoir une loi, mais il faut encore l'appliquer.
Ici à l'Est, nous sommes confrontés à une autre problématique liée aux partenariats qui sont signés entre les coopératives minières et certains opérateurs. Quelle est votre lecture de la situation?
Bon, ça, c'est un marché de dupes. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce que les codes disent dans l'intention du législateur, c'était de dire, on donne cette fois-là l'occasion à ceux qui ont de l'argent et qui peuvent avoir la technicité de contracter avec les coopératives pour que, effectivement, ces coopératives puissent se développer. Ce qu'on a vu, c'est que les coopératives ne sont même pas là où on exploite. Et donc, au lieu qu'on transfère les ressources, la technicité aux coopératives, ce sont les mêmes personnes qui viennent et qui exploitent, par exemple, pour parler, ne pas parler des entreprises chinoises, qui exploitent, mais là où les corrompus ne savent même pas. Après, on leur dit, bon, on vous donne 5%. 5% de combien? On ne sait pas. La deuxième ruse qu'ils utilisent, c'est que vous voyez quelqu'un venir, il a de l'argent, etc. Lui-même vient avec le fonds, avec les essais, et il crée sa propre coopérative, vient avec sa propre coopérative en poche. La conséquence, c'est quoi? C'est que sur le terrain, il s'impose, et donc la coopérative, c'est une coquille vide, mais qui justifie seulement son activité. Et donc, c'est autant de défis qu'il faudra relever. Il y a toute une intelligence à développer pour que, effectivement, ces minéraux puissent servir au développement local.
Eric Adjemba, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal coordonné par Noëlla Luzitou et supervisé par Alain Irung. Quant à moi, Pierrot et la Mengi, je vous dis merci de l'avoir suivi et l'ensemble de nos informations sont sur www.radiocapi.net.